Pourquoi tous les chats ne trouvent-ils pas de riz?
Parce que
Parce que
c'est comme
c'est comme
ça.
ça.
C'est vraiment une réponse d'adulte pour justifier de ce qu'elles ne savent pas expliquer et qui s'appuie sur l'argument d'autorité comme d'un argument valable.
Pourquoi j'aime tant marcher?
Parce que c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps et je repense au début de ma vingtaine. Je repense avec un pincement au cœur à l'intensité de mes émotions et avec gratitude quand je pense au fait que je suis plus tempérée aujourd'hui. Et avec l'espoir que peut-être un jour, je m'en batte le coquillard.
Pourquoi partir? Pourquoi partir?
Parce que j'aimerais avoir des amis et pour ça, j'aimerais m'ancrer quelque part.
Moi, je vais vous partager un extrait d'un livre qui s'appelle Du même bois de Marion Fayolle, et l'extrait s'appelle Les buissons. La gamine, elle ne sait pas d'où ça lui vient, mais elle tombe toujours amoureuse d'une chevelure. Elle aime que ça boucle, que ça frisotte, que ça soit sauvage, que ça n'obéisse à rien. Si on s'amusait à aligner tous les garçons qu'elle a embrassés là, le long de sa promenade, il n'y aurait plus de chemin, mais une haie touffue. Des têtes hirsutes, broussailleuses qui se nouent, qui s'envahissent les unes les autres, qui empêchent tout le monde de passer. Elle adore ça, se faufiler dans les fourrés, séparer les ronces, ramper sous les branchages, se perdre dans les sous-bois, découvrir des inconnus. Il y a des chambres pourtant, mais elle préfère l'amour dehors. Les draps d'épines, les myrtilles. Il faut que ça sente la sève, la terre, qu'il y ait du vent. Il faut que elle se promène, sème à travers la plaine des souvenirs bouclés, ici, là et puis là. Ça lui plaît de retrouver ses fantômes, d'en faire des bosquets désordonnés, de s'y risquer, de s'y perdre. Si le pépé voyait ça, il ne pourrait s'empêcher de venir tailler, de garder seulement la plus grosse branche. Il dirait qu'un bois, ça s'entretient, qu'on ne peut pas aimer comme ça, tout enchevêtré, que ça fait des incendies. Il aurait raison sans doute, mais la gamine, elle est comme ça. Elle n'aurait jamais pu entretenir des hectares de taillis, passer le broyeur, sélectionner, faire propre. En elle, tout se chevauche, s'entremêle, se bagarre, se confond, les amours, les idées, les souvenirs, ça aurait besoin d'une coupe, ça prend feu à la moindre remarque. Ça fait peur aux parents, eux qui ont toujours tout coupé bien ras. C'était pour éviter ça, justement. Ils sont obligés de lui mettre la tête sous l'eau froide. Comment faire sinon? Pour pas que ça se propage, pour empêcher les flammes de gagner ses broussailles. Ils ont essayé de lui présenter des garçons bien soignés qui auraient pu mettre de l'ordre en elle, mais la gamine ne les voyait même pas. Si c'est pas tordu, si c'est pas cabossé, ça laisse son cœur indifférent. Ça sera dur de la marier.
Je vais lire un extrait de Mon corps de ferme. Sur synergieagroalimentaire.com, la richesse renchérit. Il consigne les scores bretons. 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 140 000 emplois directs. Tout en se voulant rassurante. Maintenant, c'est plus comme avant. Maintenant, le veau est durable. Les études ne mentionnent pas les données qui relèvent les suicides, des suicides au tir à la carabine, les suicides noyades dans la fosse à lisier. C'est plus ou moins toujours trop de personnes par an. Pour réparer le mensonge par omission, rendre visibles les morts dans l'année Un agriculteur breton a ajouté 600 croix blanches à un monument aux morts 14-18. En 14-18, il y a eu 140 000 bretons morts à la guerre. Morts directs, et les plus éduqués d'entre eux ont pu lire en français juste avant de mourir. Un dernier effort et on l'aura.
Deux textes aussi d'Aurélie Olivier dans Mon corps de ferme. Le feu de la Saint-Jean, le concours de boules, c'est la fête du village. Les vieux demandent à la buvette le vin ordinaire, servi à ras-bord. Sur le plancher installé pour danser, les partenaires particuliers cherchent des partenaires particulières. Ce qu'il reste d'enfants s'en profite, blague avec les numéros verts dans les cabines téléphoniques. Entre les lattes du plancher monté pour l'occasion, le bal du désir persiste. Mes portes se mettent à claquer et ça fait énormément de bruit. Freddy pense que c'est un bon signe. Encouragée, je m'emballe et fendille même quelques cloisons supplémentaires. Les joints craquellent, la façade s'humidifie. Je retrouve mes débuts de phrases. Ils se lient les uns aux autres jusqu'à détacher des phrases entières qui ne font plus semblant. La ferme me lâche. Je sors de terre.
Et je crois qu'on peut les applaudir bien fort encore une fois. C'est pas évident. Merci.
J'étais pas à l'atelier d'écriture de ce matin, mais celui d'avant que Aurélie a proposé ici. Et juste, c'est pas le texte que j'ai écrit pendant l'atelier que j'ai envie de vous lire, mais celui que j'ai écrit juste après. Et comme il n'y avait plus de contraintes, je ne savais pas par quoi commencer, j'ai demandé à une copine de me donner une contrainte et elle m'a dit « le manque de neige ». Donc je suis partie de ça. Quand j'étais enfant, on habitait au bout d'un chemin de campagne. Chaque hiver, aux premières neiges, on restait bloqué à la maison, parfois des jours durant. Tout heureuse de rater l'école et de jouer dehors. Mes sœurs et moi. Si je cherche des moments d'enfance de joie, il y en a. Il y a la neige, c'est sûr. Se laisser tomber dedans de tout son long, pour laisser l'empreinte de son corps entier. Dévaler les pentes sur des luges de fortune. Construire des fortifications, des igloos qui se cassent la gueule. Manger la neige à pleine main. Ou attraper les flocons qui tombent au ralenti. Jouer à faire chuter le contenu des branches quand ma sœur passe. Boule de neige qui dégouline dans le cou. La peau brûlée par la neige à force de se rouler dedans. Ne rentrer qu'une fois trempé et bleu de froid, se réchauffer au radiateur et aux tasses de chocolat. Intempéries, imprévues, du temps volé sur la routine et sur l'institution de la répression des corps. Youpi ! Je veux dire l'école, vous aviez compris. À présent, je ne trépigne plus sur ma chaise toute la journée. Je bouge quand je veux, je m'étire, je sors marcher, j'alterne les postures et les activités. Le matin, je me lève quand je veux, enfin souvent c'est quand je peux. En tout cas, je ne pointe nulle autre part que dans les administrations. Je ne subis pas de patron, ni un travail de bureau, ni tellement de contraintes. Assistée, improductive, je me suis enfuie des obligations sociales. Je suis riche de temps. Et aussi libre que les insomnies, la maladie chronique et l'anxiété le permettent. Disons que je connais assez bien mon plafond. Je nage contre le courant de la course en avant. Même quand j'ai mal, je me sens extrêmement chanceuse. Je préfère ma vie à celle de qui que ce soit. Le plus riche, le plus connu, le plus puissant, le plus aimé. Personne n'a une vie aussi cool que moi. Mes voisines, retraitées ayant survécu à leur mari, à leur grossesse, à leur boulot, le savent. Certaines me haïssent derrière leurs rideaux et leurs volets électriques. Qui suis-je pour ne pas travailler? Pour ne pas muser comme tout le monde? En plus, généralement, je tiens debout et la douleur ne déforme pas mon visage. Parfois, des amis viennent, on rit, on fait un gâteau. C'est presque indécent. Alors clairement, ce n'est pas pour le sentiment de liberté que la neige me manque. Ni par nostalgie de l'enfance. Quelle connerie ce truc, ni par nostalgie d'un grand avant, quand on n'était pas consciente dès l'enfance que le monde s'effondre. En fait, c'est pour l'acoustique, pour le silence. Tu sais, quand la neige a tout recouvert et que la poudreuse absorbe les sons, j'adore. C'est mon ambiance sonore préférée. L'immense silence moelleux alentour. Le crack délicieux de chaque pas dans la neige. Quand il faut bien lever ses bottes pour passer par-dessus l'épaisse couche de poudre. Ou quand la croûte est tellement épaisse et le poids des corps tellement plume que c'est la surprise à chaque pas si on s'enfonce ou pas. Quand t'es la première personne qui a marché sur la lune de ce coin de forêt ou de ce pré. Jouer à marcher à l'envers pour semer le trouble des traces. De temps en temps, une branche qui ploie et une grosse part de gâteau à la crème s'effondre dans un bruit d'avalanche. Bon, en vrai, j'ai jamais entendu d'avalanche. Je ne devrais pas parler de ce que je ne connais pas. Je connais le son de la neige et à ma connaissance, c'est ce qui se rapproche le plus du silence. Il paraît que quand je parle du silence de la neige, mes yeux s'illuminent. Alors on rebondit facilement. Tu devrais vivre en altitude, la neige 5 mois par an. Là, c'est le moment où il faut que j'avoue. En fait, j'ai froid. La neige, c'est juste un fantasme auditif. Et peut-être les fantasmes, ça n'a pas aussi souvent que ça vocation à être réalisé. En tout cas, c'est ce qu'on apprend ici à la campagne. Les fantasmes, la sexualité, le désir, on n'en parle pas. Quand je suis revenue ici, dans ma région d'origine, j'appréhendais beaucoup ce que je vivais comme revenir à la froideur et l'isolement de l'hétéroland. Alors qu'en fait, au final, je crois que globalement, tout le monde s'en fout de mon orientation de genre, mon orientation sexuelle et mon genre. Globalement, il me semble, les ruraux sont assez enclins à tolérer la sexualité des uns et des autres à une condition, que tu n'en parles pas. Que tu t'invisibilises. Combien de fois ai-je entendu « Moi, je m'en fous de ce que vous faites dans votre lit, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez autant besoin d'en parler tout le temps. » Voilà. Ici, il faudrait que le sexe soit dans le noir, le samedi soir, et qu'on n'en parle ni avant, ni pendant, ni après. Ni jamais. Il faudrait aussi respecter les autres valeurs fondatrices de la ruralité, que sont le travail et la famille. C'est pour ça que je disais pendant l'atelier, à la campagne, juste être célibataire, c'est déjà être queer. Si t'es pas en couple avec enfant, t'es chelou, un peu raté, sujet potentiel à moquerie. Je ne sais pas si vous avez vu alentour, vraiment, en ce moment, il y a des affiches faites main pour un spectacle qui a l'air bien de merde, qui s'appelle « La vieille fille ». Ça résume bien la situation. Le problème, le sujet à blague misogyne, c'est pas tant qu'elle soit potentiellement Gwyn, c'est qu'elle soit seule, sans enfant. Ha ha ha. Elle ne respecte pas l'organisation normopathique de la famille. Alors, celles qui vivent en coloc, n'en parlons même pas, elles n'existent pas. Au mieux, elles pourront plaider la jeunesse. On ne comprend rien à leur genre, à qui couche avec qui, à comment elles gagnent leur vie. Alors, blackout. C'est pas pour faire une compétition de discrimination. Mais il me semble que ici, tu t'exposes à nettement plus de discrimination si t'es racisé et ou que tu ne travailles pas. Après, c'est clair, j'ai un billet de Gwyn. Je ne sais pas exactement comment ça se passe socialement en milieu rural pour les mecs qui ne sont pas conformes aux injonctions de la virilité. Je constate qu'il y a beaucoup moins de mecs out dans les campagnes et je serais ravie de vous écouter. Avant, quand on me disait parfois que je suis comme ça, je pensais que c'était de l'homophobie ou une pudeur à dire le mot lesbienne. Comme si, quand on disait le mot, ça allait en faire apparaître plein dans le hangar ou le poulailler au fond du jardin. Lesbienne, 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 queer, queer, oh, ça marche. Mais avec le temps, en fait, je crois que c'est plus compliqué. Je me demande même si quand ils disent comme ça, au lieu de nommer directement ce qui les dérange ou leur paraît dérangé chez moi ou chez quelqu'un, si c'est pas faute de savoir lequel choisir de mots. Neuroatypique, tordu, incapable de garder un job, anarchiste relationnel, anarchiste tout court, déguenillé, malade mental, traumatisé par l'inceste, chelou qui fait rien comme les autres. C'est vrai ça, quel mot choisir ? Ce qui est sûr, c'est qu'ici, on n'est pas comme ça. On ne parle pas de ces choses-là. Alors, double, triple, quadruple, merci de m'avoir écouté. Et courage à tous pour s'épanouir comme on est, comme vous êtes, comme nous sommes.
On m'entend ? Ouais ? Ok. Moi, je n'ai pas participé à l'atelier non plus. Et pour le lien, j'ai grandi en ruralité, puis 25 ans de Seine-Saint-Denis, et je viens d'avoir ma mutation ici. Donc voilà, une autre ruralité, parce que pour rien au monde, je serais retournée dans la mienne. Et voilà. J'ai pas les mots, pour ceux qui ont la ref. Un titre de Fanny Poli et Demi-Portion, qui m'a inspirée. Enfant timide, introverti, écrasé par le poids des non-dits, j'ai pas les mots pour dire mes émotions, à force de faire comme les garçons. Ado rebelle, je m'autodétruis dans un silence maudit. J'ai pas les mots quand la rage et l'impuissance me terrassent, quand je perds la face, quand les émotions me dépassent. Des fois, j'ai rien à dire, que des mots qui piquent comme mille dards ou de sombres tirades. Acculé, je reste en rade. Mais les dés du hasard sont comme des clés. Je tire le fil de mes pensées qui font la queue dans mon esprit qui déraille. Écrire m'aide à faire le tri, à revenir sur les rails. Au réveil, des mots tombent en cascade, tourbillonnent dans mon crâne jusqu'à ce que ma main les délivre enfin. Des mots précis, pressés, précieux. Si elle ne le fait pas, ils tournent sans fin, comme nos pas dans la cour de promenade. Mots avortés, sans issue, condamnés. J'ai pas les mots quand la mort surgit, morsure du temps qui suspend la vie. J'ai pas les mots dans ce brouillard d'antidépresseurs, émotions anesthésiées, la fureur, l'anxiété, la douleur étouffée dans le coton. On est si bien dans ce cocon, mais je préfère ressentir que vivre dans un monde lisse, quitte à souffrir, que mon front se plisse, gravir les montagnes russes, épouser le relief, exprimer mes griefs. Les mots laissent des traces, trahissent, ravissent ma confiance. L'hypersensibilité est un plus. Je préfère trop que pas assez. Ça passe ou ça casse. J'aime les fêlures d'humanité, les têtes dures, sublime vulnérabilité. Quand tendresse et sérénité m'embrassent, j'ai pas les mots, car le bonheur s'en passe. Avec les mots, je m'évade. Comme ces mères au foyer, ces malades, ces prisonnières. Des visages, des animaux, des paysages, des marmots m'enlèvent les mots de la bouche. J'ai pas les mots quand on me laisse sur la touche. Le cœur déchiré, je sais pas coudre, mais le fil de l'écriture peut réparer, panser les plaies. Les mots, des points de suture. J'ai pas les mots devant la violence du système scolaire. Des mots coup de poing dans la figure. Tous pareils, tous différents. Les enfants n'ont pas les mêmes vices, les mêmes caractères, la même malice. Des mômes ne tiennent pas en place, des extravertis, des hyperactifs qui te retournent la classe, quand d'autres semblent ralentis, des perchés, des chippies. Surveiller et punir, à bas l'humiliation. Je me bats pour que la dignité apprise en prison s'apprenne aussi à l'école, qu'on s'y épanouisse, qu'on rigole. Je leur donne des mots qui les grandissent. J'ai la manie des mots, des rimes, j'aime leur compagnie, je m'anime quand je m'arrime à la page. Ma bouche, comme une énigme. Si ma bouche pouvait exprimer ce que je pense et ressens, le flux qui m'anime. Ma bouche, comme une énigme, contient ce qui ne se dit pas. Mâchoire de pitbull à force de serrer les dents, retenir les pensées qui se bousculent, bouche déformée que je m'efforce de contrôler. Parfois, ça craque. Trop de pression laisse échapper les mots interdits. La sentence sociale est fatale. Les mots incendient. Punie, elle se referme pour un moment. Je crois qu'elle apprend. Pourtant, personne ne pardonne les mots tranchants. La vérité qui blesse se pimente trop piquant. Si seulement je pouvais lui mettre des filtres comme sur Snap. Un clic magique. Difficile de se museler soi-même. Se camoufler muse. La tenue militaire ne lui va pas. C'est pourtant ce qu'on exige des autistes désolants. Même les gauchistes veulent que je me flique. Ma bouche se referme pour un moment. Mutique. Dans l'adversité, ma bouche sait combattre. Boxe avec les mots. En temps de paix, c'est plus compliqué. Elle ne peut s'empêcher de s'aborder. L'amour et l'amitié. Me taire, c'est pas dans ma nature. La place des femmes dictée par la culture. Trop de voix s'éteignent. Je me suis battue comme une teigne. Autre posture. Sur scène, matée sous toutes les coutures. Aucune musique n'y échappe. Je sature puis retourne à mon écriture. Garde mon cap, façonne des textes qui décapent comme des sculptures. Retourne les mots dans tous les sens, qui ne sonnent au-delà de la raison, de la décence, quitte à causer des éraflures à l'âme. Les images que je capture sont comme un baume. Les mots sont mon royaume, my home sweet home. Ce que j'aime, c'est faire des ratures. Point de suture de mon âme, d'où je rappe ma littérature. Pirate du langage, sans autre drapeau que des mots, sans autre bagage. Mes phrases frappent les âmes grises à la grâce d'une langue insoumise. Au bout de ma plume, il y a des mondes sans limite où personne ne t'imite, personne ne domine, même les timides s'illuminent. Mes mots sont des bandits, pas des momies. Maudits soient les non-dits. Revanche sur le vide que j'apprivoise, intrépide, dans mes éclats de voix. Loin des mots insipides qui m'inondent et me noient. Poète un peu rude dans un monde dissolu, poète de l'absurde lucide jusqu'à l'absolu. Que la poésie fasse mal, qu'elle vous pousse à bout dans ce monde bancal, réveille les plus mous, divorce de la morale, qu'elle crée des remous, t'emmène en cavale, qu'elle retourne tout. Que la poésie fasse mal, qu'elle transparaisse partout, explose le banal, traverse hors des clous, provoque le scandale, s'attaque au relou, choque le mec normal, qu'elle rende les coups.
Bon, bah moi, je vais juste lire... trois poèmes que j'ai écrits, que j'ai mis dans mon recueil. Et si vous essayez de m'écouter, vous faites semblant de me comprendre, je vous vois débattre sur mes sentiments comme si je n'étais plus présent. Pourtant, je suis là, discret, je vous entends parler, j'assiste à tout sans jamais exister. J'ai toutes les clés de vos secrets, mais vous faites le choix de laisser toutes les portes verrouillées. Je vois les masques tomber, spectateur de tous vos projets, sans jamais pouvoir y participer. Comment aider un enfant perdu ? Je ne me fais pas de mal, je ne saigne plus, je n'ai plus envie de mourir, je ne me drogue plus, mais ce n'est pas pour autant que ça va. Pourquoi avoir de l'aide ? C'est normal que je n'en reçoive pas. Est-ce normal que je n'en reçoive pas ? Est-ce normal que les gens ne m'aident pas ? Est-ce que j'ai assez demandé aux gens ? Est-ce que je leur ai demandé même ? Pourquoi avoir de l'aide ? Est-ce que j'ai assez demandé aux gens ? Si oui, à qui ? Pourtant, je me laisse pourrir. Pas par envie de mourir, non, mais par flemme de vivre. Flemme de vivre, oui. Trop peur de vivre, peut-être. Autant peur de vivre que de mourir. Est-ce normal ? Est-ce que l'une de ces peurs sera un jour plus forte ? Gagnante, peut-être. Et puis, laquelle ? Je ne sais pas. Ce n'est plus moi. Je ne peux pas me plaindre si je ne fais rien. Alors demain, ou après-demain peut-être, vu que je ne sais rien, j'aurai peut-être du sang dans les mains. Et qui sait si je serai vue, aperçue. Une once de soucis pour cet enfant perdu ? Toujours pas, visiblement. Tête écorchée, je n'arrive plus à pisser. Je suis mince à souhait, seule et mal aimée. Et personne n'est là pour m'accompagner, me porter, m'aider. J'aurais essayé. Est-ce que j'ai assez essayé ? Que dois-je faire de plus ? Monter sur un tabouret ? Demander au premier venu de me tendre sa bouée ? Marcher bourré ? Écrire caché pour essayer d'évacuer ? Je ne suis qu'un enfant privilégié. Enfant qui bientôt atteint sa majorité. Bon, c'est le dernier, après je m'en vais. Je pense qu'on m'a déjà aimée, ou du moins appréciée, mais jamais suffisamment pour rester. Je n'ai jamais été celui qu'on choisit en premier, ni jamais celui qu'on choisit en dernier d'ailleurs. Peut-être qu'ils me croyaient trop occupée pour m'appeler, ou simplement, ils n'y ont pas pensé. Pourtant, je suis là, silencieux, discret, existant, présent, mais jamais attendu, encore moins entendu. Je suis celui qui écoute, mais jamais celui dont on se soucie. Si je suis là, tant mieux, si je ne le suis pas, personne ne s'en plaindra. Je ne suis pas le meilleur ami de ceux que je pense être les miens. Je me suis longtemps dit que le plus important, c'est de s'aimer soi. Mais la vérité, c'est que s'aimer seul ne comble pas le vide laissé par l'absence des autres. Parce que ça fait mal de n'être la nécessité de personne, de ne jamais être suffisant et toujours facilement remplaçable. Voilà.
Bonsoir. Donc moi, je vais lire un texte qui a été intégré dans un montage préparé par les collègues de Pastèque, Laura en particulier, et qui a circulé dans les communes environnantes. Donc il y avait des lectures faites par Aurélie et des extraits de colza. Donc moi, j'avais, à cette occasion-là, j'avais lu un extrait de colza, et là, je vais lire, bon, je n'ai pas préparé, mais un extrait de Chant de la rivière de Wendy Delorme. Un petit, voilà, comme elle est absente. Voilà. J'ai la mémoire intacte de celle qui m'habite, qui a vécu ici il y a maintenant un siècle, qui m'a bu à la source, qui a mêlé souvent ses larmes à mes flots, jusqu'à ce que son regard en devienne liquide. Elle s'appelait Clara. Je me souviens pour elle. J'ai une histoire à dire. Il faut que son amour ne soit pas oublié. Alors, je gronde sous terre en écho au passé. Je rugis dans la pierre. Je fais parfois chanter les longs tuyaux de cuivre. Je suis l'eau qui charrie les larmes de Clara. La vapeur du souvenir aux carreaux de fenêtres lorsque tombe la nuit. Je suis les flocons de neige se posant sur leur langue tirée haut vers le ciel dans l'hiver cristallin. Je suis le ruisselet où elle marchait pieds nus lorsque venu l'été. Je suis l'humidité entre leurs cuisses mêlées et au bout de leurs doigts. Je suis le torrent de leurs âmes liquides et la salive des mots qu'elles chuchotaient tout bas. Je suis la nuée, l'onde après le tonnerre qui noie toute la vallée sous un fracas d'éclairs. Je suis leur joie grondante, je suis leur colère. Il faut bien qu'on m'entende, j'ai une histoire à dire. Seul le vent me répond. Le vent a retenu le souvenir de Méni. Et Clara, quelquefois, tout en berçant l'enfant qu'elle avait de Léo, chuchotait doucement au creux de son oreille de bébé endormi. Écoute le vent qui parle, c'est la voix de Méni. Et merci aux collègues de Pastèque pour avoir préparé ce bon moment.